France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, au ciel, effectivement, opération Eclipse 73, Concorde, la Lune et l'OVNI. Le 30 juin 1973, une déflagration traverse le ciel au-dessus de l'océan Atlantique Nord. Un Concorde, premier avion supersonique commercial, vient de s'arracher du sol pour rejoindre la stratosphère. Volant à plus de 2000 km/h, cet avion se place dans l'ombre que crée la Lune sur la Terre, permettant ainsi à une équipe de scientifiques présente à bord d'observer pendant plus d'une heure un phénomène astronomique rare, une éclipse totale du Soleil. Odyssée technique et défi technologique extraordinaire, aventure humaine et scientifique hors normes, l'opération Eclipse 73 est une réussite scientifique exceptionnelle qui va offrir aux chercheurs des données astrophysiques inédites. Tout cela donc grâce à l'utilisation du supersonique franco-britannique. Mais cette histoire va aussi avoir une conséquence inattendue. 6 mois après leur retour de mission, pilotes et scientifiques ont peut-être croisé un ovni. 6 mois après l'exploit. Concorde, l'ombre de la Lune et l'ovni, l'opération Eclipse 73, fête cette année ses 50 ans. Notre invité aujourd'hui, l'astrophysicien Pierre Léna, qui fut le grand instigateur du projet scientifique et l'auteur d'un livre sur les coulisses de cette histoire, ouvrage coécrit avec l'astrophysicien Serge Kouchmi et intitulé « Soleil éclipsé, supersonique Concorde 001, couronne solaire et exoplanète », livre paru en juin dernier chez EDP Sciences. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 30 juin prochain, les Mauritaniens pourront assister à l'éclipse du siècle. Elle durera plus de 7 minutes. Mais 7 minutes, pour des savants, c'est bien peu. Aussi ont-ils songé à utiliser un prototype de Concorde pour suivre la zone d'ombre et observer le phénomène aussi longtemps que possible.
Samedi 23 juin 1973, aéroport de Toulouse-Blagnac. Devant les portes du grand hangar de l'aérospatial, cœur du programme franco-britannique Concorde, une équipe de journalistes de l'ORTF réalise un reportage sur l'opération Eclipse 73. Soutenue par le CNRS et par le Centre National d'Études Spatiales, il s'agit d'un projet scientifique unique en son genre, qui doit se dérouler une semaine plus tard, au-dessus du continent africain. Unique, oui, car l'ambition des chercheurs est d'aller observer une éclipse totale du Soleil, depuis la stratosphère, une expérience jamais tentée jusqu'ici. Il faut dire que le phénomène astronomique en question est très rare et nécessite que certaines conditions très précises soient réunies. Pour qu'une éclipse totale du Soleil se produise, il faut que la Lune, lorsque celle-ci est dans sa phase dite de nouvelle Lune, autrement dit au moment où elle se trouve entre la Terre et le Soleil et pas dans le ciel nocturne, eh bien, il faut que la Lune, justement, vienne se positionner devant le Soleil, dans un parfait alignement, genre, pousse-toi de là, je m'y mette. Si tout se passe bien, la Lune va alors occulter les rayons lumineux du Soleil et plonger dans le noir tout ce qui se trouve derrière elle. Bien. Problème toutefois, observé depuis la Terre, l'événement est très bref à cause du déplacement et de la rotation de la Terre, quelques minutes tout au plus. Pour se battre contre le temps et gagner en durée d'observation, des scientifiques ont donc demandé l'autorisation spéciale de s'installer à bord du prototype de l'avion Concorde 001, le premier supersonique commercial de l'histoire. Au micro de France Inter, Pierre Aigrin, délégué général à la recherche scientifique, confirme le rôle indispensable de cet avion pour la réussite de la mission Eclipse 73.
La zone d'ombre produite par une éclipse est de très petite dimension. Car en fait, la combinaison du Soleil et de la Lune produit un cône d'ombre convergent et au niveau de la Terre, la zone d'ombre ne fait guère qu'une cinquantaine de kilomètres de diamètre. Il en résulte, comme d'autre part, cette zone d'ombre se déplace très vite, qu'un observateur qui se trouve sur la Terre, à un point fixe, voit l'éclipse se produire puis disparaître en un temps assez court. Le temps de totalité de l'éclipse n'est que de... effectivement, compris entre 5 et 7 minutes. Si au contraire, Vous pouvez vous maintenir dans la zone d'ombre, vous déplacer à la même vitesse que cette zone d'ombre qui traverse tout le continent africain. Il se trouve que dans le cas de l'éclipse du 30 juin 1973, cela permettra un temps d'observation de l'ordre de 80 minutes, c'est-à-dire un temps d'observation comparable au temps total d'observation de toutes les éclipses de soleil observées depuis le début du siècle.
Bref, tout concorde. Cet avion-là est parfait. Et ce n'est pas tout. Il présente un autre avantage pour les astrophysiciens. Il est le seul appareil civil capable d'atteindre une altitude de croisière de 17 000 mètres, soit près du double de celle de n'importe quel autre avion de ligne. Comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et pour cause. À son bord, il est possible d'observer une éclipse sans être soumis aux perturbations parasites qui se déroulent en dessous, dans l'atmosphère. Vraiment parfait. Oui, sauf que la perfection n'existe pas. Il se trouve que cet avion n'a jamais été pensé pour recevoir et charger à bord plusieurs tonnes d'équipements d'observation astronomique, encombrants et fragiles. Une cargaison à laquelle s'ajoutent 8 chercheurs venus des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Non. À l'origine, Concorde, avion très étroit, a été conçu pour le transport commercial. Une centaine de passagers volant à Mach 2, deux fois la vitesse du son. Conséquence. Si les minuscules hublots permettront à ces futurs passagers de voir dehors, de résister à la pression ainsi qu'aux températures extrêmes d'un vol supersonique, ces mêmes hublots ne répondent pas aux exigences des scientifiques pour l'observation de l'éclipse, car celle-ci va se dérouler au zénith, donc à la verticale de l'avion. Alors, que fait-on ? Eh bien, on perce le plafond. Le bureau d'études de l'aérospatiale donne son accord afin d'installer, au plafond donc, 4 hublots, dont un spécial en forme de trèfle, peut-être un porte-bonheur. Et ce n'est pas fini. Concorde 001 se voit aussi amputé de ses sièges. À la place, des instruments d'observation qu'il faut faire rentrer aux chausse-pieds et répartir soigneusement pour équilibrer la masse, histoire de ne pas gêner les manœuvres de l'appareil. Il ne manquerait plus que ça. En tout cas, au milieu de la centaine de câbles électriques qui jonchent le sol de la cabine et qui relient les instruments entre eux, un homme affiche son optimisme. Cet homme, c'est l'astrophysicien Pierre Léna, artisan de la mission Eclipse 73. Au micro de l'ORTF, il fait le point sur l'avancement du projet.
Nous sommes maintenant dans la configuration Eclipse définitive. Et la seule chose qui n'est pas encore réalisée, c'est la Lune devant le Soleil.
Et vous êtes optimiste pour cette expérience du 30 juin ?
Ah, les scientifiques sont toujours optimistes, oui. Sans ça, ils ne commenceraient pas.
Quelle expérience que vous allez faire personnellement ?
Nous étudions la couronne de poussière autour du Soleil.
Une expérience unique pour vous ?
La première fois qu'on l'a fait pour nous, elle a été déjà tentée une fois par une équipe américaine au Mexique en 1970 et elle n'a pas réussi.
En ce samedi 23 juin, il est un peu plus de 14h lorsqu'un grondement se fait entendre dans le ciel au-dessus de l'aéroport de Toulouse. Apparaît alors la silhouette du Concorde, fier comme Artaban. L'avion supersonique, au corps de fusée à laquelle on aurait greffé à l'arrière une large aile delta, s'aligne dans l'axe de la piste et se prépare à atterrir. Les journalistes de l'ORTF filment alors des images incroyables pour l'époque. Le Concorde en phase d'approche. Le corps cabré à plus de 25 degrés, le nez avant avec sa visière baissée, train d'atterrissage sorti, turboréacteur au ralenti, il se pose avec majesté. Aucun doute, cet avion est appelé à incarner le futur de l'industrie aéronautique, il est objet de fascination. À l'approche, défiant les lois de la gravité, repoussant les limites de la portance, Concorde effleure la piste. Puis se pose, sans donner l'impression du moindre effort, la grâce. Puis, une fois qu'il a ralenti sa course, il fait demi-tour et se dirige vers le hangar du centre d'essai, la classe. À peine descendu du cockpit, le pilote André Turca, chef du programme d'essai en vol et qui sera aux commandes de l'appareil lors de la mission Eclipse 73, répond aux questions des journalistes.
C'était un vol de répétition, disons oui. Qu'il est difficile de répéter une éclipse, mais c'est du moins une répétition pour nos amis scientifiques qui sont à bord pour la capture du soleil, c'est-à-dire l'observation du soleil à travers toute une série de systèmes d'optique qui, faisant suite au système de navigation de l'avion, permettent de savoir que l'on aura exactement le soleil arrivant finalement à l'entrée des systèmes de mesure. Alors, c'était une observation quasi méridienne, faite au large du Portugal, dans les deux sens. Et maintenant, la Lune est à son dernier quartier, et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit nouvelle, et c'est lorsqu'elle sera nouvelle, donc dans une semaine, que nous nous retrouverons sur le trajet entre Las Palmas et Fort Lamy.
Le jour de l'éclipse, le plan de vol que doit suivre Concorde est très précis et ne peut subir aucune modification. Parce que chaque minute de retard, au décollage ou en vol, à cause d'une erreur de navigation par exemple, en ferait perdre plus de 10 sur le temps d'observation final. Et on l'a dit, l'éclipse ne s'attarde pas. Pour elle, l'heure c'est l'heure. Alors, ce plan de vol. Eh bien dans les grandes lignes, aux premières lueurs du jour, le supersonique doit décoller des îles Canaries, puis mettre plein gaz vers le sud-est pour rejoindre le continent africain. Si tout se passe comme prévu, lorsque l'avion survolera le désert de Mauritanie, à Mach 2, il rattrapera la tâche de l'éclipse et pourra se placer dans l'ombre de la Lune pour observer la disparition totale du Soleil. Ensuite, après un deuxième, puis un troisième contact, Concorde ira se poser sur la base militaire de Fort Lamy au Tchad. Pour mettre toutes les chances de son côté et démontrer les capacités hors normes de son appareil, une partie de l'équipe d'essai du programme Concorde a été réquisitionnée. Aux côtés du pilote André Turca, on trouve donc les grands noms qui vont marquer la légende de cet avion. Le copilote Jean Dabos, le chef mécanicien Michel Rétif, le radionavigant Hubert Guillonnet, ainsi que deux des pairs du Concorde, les ingénieurs Jean Conche et Henri Perrier. Tous ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ils ont vraiment marqué l'aéronautique. À l'arrière, aux côtés de Pierre Léna, des astronomes anglais et américains chevronnés, et trois éminents chercheurs français, Jean Bégaud, Alain Soufflot et Pierre Charvin. Voilà, tout est prêt. Après cette répétition générale, Concorde et son équipage ont désormais rendez-vous à l'ombre de la Lune. Et si tout va bien, la rencontre aura lieu quelque part dans le ciel, au-dessus de l'Afrique, dans 7 jours. Samedi 30 juin 1973, ciel bleu, temps clair au-dessus des Canaries. Il est 10h08 en temps universel lorsque Concorde 001 s'élance sur la piste de l'aéroport de Las Palmas. Une poignée de secondes plus tard, le supersonique est déjà dans les airs, sa visière avant remontée, prête à accélérer pour dépasser le mur du son et rejoindre la stratosphère. Craignant des rencontres sur le parcours, le pilote André Turca a décidé de partir avec 10 secondes d'avance sur le temps prévu. Vu du sol, cette durée paraît insignifiante. Mais une fois dans les airs, elle est très importante. Car tout va se jouer à la seconde près pour que l'avion rencontre la zone d'ombre de l'éclipse à l'endroit prévu. C'est là que Concorde a encore une fois démontré qu'il est un appareil hors norme. Il dispose en effet d'aérofreins capables de le ralentir en plein vol à Mach 2, ce qui est impossible sur n'importe quel autre avion ligne. Dans le cockpit de Concorde, assis derrière les pilotes, le navigateur Hubert Guillonnet a l'œil rivé sur ses écrans de contrôle, où défilent des séries de chiffres et où clignotent de nombreux points lumineux. C'est grâce à lui qu'André Turca et Jean Dabos savent, en temps réel, leur position, ainsi que le cap à suivre pour aller à la rencontre des l'éclipse, qui d'ailleurs a déjà commencé au-dessus de l'Atlantique depuis une dizaine de minutes. À l'horizon, à travers les hublots, l'équipage distingue au loin une bande sombre de 300 km de large qui recouvre l'océan telle une nappe. Celle-ci se déplace à plus de 2200 km par heure. Et cette vitesse, c'est justement celle à laquelle fonce Concorde pour intercepter l'éclipse. Dans le documentaire « Éclipse 73 », les astrophysiciens Pierre Léna et Jean Roche racontent le premier contact avec l'ombre de la Lune.
À 10h46, Concorde a terminé son virage final d'acquisition et se stabilise maintenant sur sa trajectoire d'observation. La tache immense de l'ombre se rapproche. Elle est nettement visible à tribord. L'avion va l'aborder par le nord et se laisser rattraper. Les pilotes maintiennent la vitesse à Mach 2,05. Tout fléchissement de cette vitesse entraînerait le dépassement trop rapide de l'avion par l'ombre. Déjà, les vents sont contraires et suffisants pour réduire la totalité à moins des 80 minutes espérées.
À l'arrière de l'avion, l'œil rivé dans le petit viseur en forme de périscope et qui reçoit la lumière solaire au travers du hublot installé dans le plafond, l'astrophysicien Pierre Lena assiste à ce spectacle incroyable. Le soleil, presque éclipsé, apparaît désormais à la verticale de l'avion et ses rayons s'engouffrent dans son instrument de mesure. À côté de lui, son enregistreur papier retranscrit l'intensité de la lumière infrarouge émise par la couronne solaire. Ce face-à-face entre un groupe de scientifiques et le soleil est inédit. Mais pour les chercheurs, malheureusement, pas le temps de profiter du spectacle. Chacun d'entre eux est très occupé à régler les outils de mesure pour enregistrer et documenter la moindre seconde de ce phénomène lumineux rarissime. Un autre membre de l'équipe, Jean Bégaud, observe par exemple la couronne solaire en lumière visible et prend une série de photos grâce à son petit télescope qui lui permet d'observer lui aussi le ciel. Merci le hublot dans le plafond de la cabine. C'était une fière idée. L'anglais John Beckham, lui, étudie les variations des molécules de la chromosphère, fine couche de gaz qui se trouve à la base de la couronne solaire. À bord de l'avion se trouve également le journaliste Jacques Aubertin de l'ORTF. C'est à lui que revient la tâche de documenter en images ce qui se passe dans les entrailles du Concorde durant toute la phase d'observation. À son retour au sol, il raconte l'ambiance qui règne à bord lors de l'expérience.
Voici la première prise que j'ai pu faire grâce à l'obligeance des expérimentateurs qui se trouvaient dans l'appareil, car bien entendu, en plus, il faisait noir dans l'appareil, les lumières étaient complètement éteintes. Il est bien certain que si j'avais pu prendre des photos moi-même, j'aurais gêné les expérimentateurs. Alors, la seule solution, c'était que ceux-ci se déplacent à un moment donné et me permettent, à travers l'ouverture qui était pratiquée dans le plafond, de voir ce que eux-mêmes voyaient ou sur les expériences sur lesquelles ils travaillaient, c'est-à-dire de prendre des photographies ou de visionner des rayons qui proviennent du soleil. Alors, les enregistrements étaient faits. Voyez, l'ombre se trouve devant l'appareil et nous avons à l'arrière de l'appareil, évidemment, il fait beaucoup plus clair puisque l'ombre nous a rattrapés. Voici la fin de l'éclipse. À ce moment-là, le disque solaire réapparaît.
Pendant ce temps au sol, dans plusieurs bases d'observation en Mauritanie, d'autres scientifiques, un peu moins chanceux que ceux qui voyagent à bord du Concorde, sont aussi à pied d'œuvre. Grâce à leurs appareils, pour certains, beaucoup trop volumineux pour être embarqués dans le supersonique, ils complètent les mesures prises par leurs collègues du Concorde. Mises bout à bout, toutes ces données permettent une meilleure compréhension des enjeux scientifiques du phénomène. À 12h56, en temps universel, après un vol de près de 3 heures et à plus de 16 000 mètres d'altitude, le supersonique se pose comme prévu sur la piste de Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, au Tchad. Sur le plan scientifique, c'est clair, la mission est réussie. La moisson des données collectées et enregistrées pendant le vol est exceptionnelle. Pendant 74 minutes, l'astrophysicien Pierre Lena et ses collègues ont pu observer l'éclipse total du soleil et analyser les phénomènes énergétiques et lumineux au niveau de la couronne solaire. Et en toile de fond, l'étude de cette couronne revêt une importance particulière pour les chercheurs, car c'est un point clé pour comprendre ce qu'ils définissent comme le vent solaire, flux de particules rapides qui part du soleil pour se diriger en direction de la Terre. Du côté de l'équipage de Concorde, le vol lui aussi est une réussite. Aux commandes de l'appareil, André Turca et son équipage ont pu apprécier en conditions réelles l'incroyable souplesse de l'avion et surtout sa parfaite stabilité à vitesse supersonique. Un vol réussi, des observations satisfaisantes, l'histoire de l'opération Eclipse 73 aurait pu s'arrêter là. Sauf que, 6 mois plus tard, elle va faire de nouveau la une lorsqu'une photo évoquera un ovni. Thank you.
supersonic ships at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. We're gonna travel faster than light, so do up your overcoat tight, and we'll go anywhere you want to decide. Nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight. Nobody's gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Suppression of minorities. Well, alright. Let me take you on a little trip. On my supersonic rocket ship.
Aujourd'hui, le Concorde et l'éclipse solaire.
Affaires sensibles sur France Inter.
On ne parle plus que de cela dans toute la région de Toulouse. Concorde a croisé il y a 7 mois dans le ciel du Tchad un ovni. Le secret a été bien gardé car les chercheurs du CNRS qui ont pris en main le dossier n'ont laissé de côté aucun détail. Lorsqu'ils ont aperçu au développement des clichés pris en vol à 17 000 mètres d'altitude, c'était à l'occasion d'une éclipse solaire, un mystérieux point lumineux, ils ont voulu en savoir plus. Le cliché a fait le tour des laboratoires du CNRS. Conclusion des savants, c'est bien un ovni que le supersonique a photographié.
Janvier 1974, Paris. Dans les kiosques à journaux de la capitale, Concorde fait la une. Mais désormais, ce nouveau chapitre de l'histoire s'inscrit davantage dans le registre du sensationnel et du mystérieux que celui des scientifiques. C'est une photo, prise à bord du supersonique pendant l'observation de l'éclipse, le 30 juin 1973, qui est le point de départ de toute cette histoire. L'auteur de clichés, c'est Jean Bégaud. Il est technicien électronicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Ce jour-là, à bord de l'avion, à la fin d'observation, il sort son appareil photo personnel et mitraille l'ombre lunaire sur le sol africain à travers son hublot latéral. Sur la pellicule, il y a une photo qui ne ressemble à aucune autre. Sur ce cliché en couleur, on distingue la ligne d'horizon de la Terre et au-dessus une partie beaucoup plus sombre, celle de l'espace. C'est justement dans cette partie sombre qu'on distingue une sorte de point lumineux d'à peine quelques millimètres de diamètre. Or, sur ce détail, Jean Bégaud est formel. Lorsqu'il a appuyé sur le déclencheur de son appareil photo, le scientifique affirme qu'il n'y avait aucun point lumineux dans son champ de vision. Interrogé à son tour, André Turcat, le pilote du Concorde, confirme n'avoir détecté aucun autre appareil présent dans la zone sur l'écran du radar de son avion. C'est assez de mystère pour que la photo fasse l'objet d'une série d'analyses. Et c'est Serge Kouchmi, son collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui lui a étudié l'éclipse depuis le sol, qui s'en charge. Interrogé lors d'une émission spéciale de l'ORTF sur l'affaire, il fait part de ses premières constatations.
On a fait des agrandissements. D'abord, j'ai voulu exclure des défauts d'origine photographique, d'origine optique, tels que des réflexions entre l'objectif et le hublot. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il s'agit bien d'une image, d'un objet qui est situé en dehors de l'appareil, c'est-à-dire de l'avion Concorde. À partir de considérations générales, on peut déterminer la dimension minimale de cet objet, sa distance. Par exemple, en supposant qu'il est immobile, on s'aperçoit que cet objet a une dimension supérieure à 200 mètres. On peut également déterminer qu'il est situé à une altitude supérieure à l'altitude de Concorde, c'est-à-dire 17 km, c'est-à-dire dans la stratosphère. Il s'agit sans doute d'un phénomène très rare dans la stratosphère.
Si l'affaire de l'OVNI prend une telle dimension médiatique, c'est en grande partie à cause du contexte autour des apparitions d'objets volants non identifiés, un peu partout au-dessus de l'Hexagone au début des années 70. Des histoires fascinantes qui se comptent par dizaines, mais qui restent la plupart du temps cantonnées aux dernières pages des journaux locaux. Et puis un constat s'impose. Toutes ces histoires d'OVNI ne sont pas reliées entre elles. Et surtout, elles donnent lieu à des témoignages et à des descriptions très différents, voire ambiguës. Lorsque plusieurs témoins, par exemple, de la même scène, ne sont pas d'accord sur la forme ou sur la manière de se déplacer de l'objet. Mais qu'en est-il lorsque des gendarmes eux-mêmes affirment avoir vu une soucoupe volante? C'est le cas d'une petite brigade de la Nièvre où trois gendarmes et leurs épouses affirment avoir vu quelque chose dans le ciel. Quelque chose qui n'avait rien de normal. Joint par téléphone sur France Inter, le chef de la brigade de la gendarmerie raconte.
Cette apparition a été remarquée déjà à plusieurs reprises. Et ce matin, par nous-mêmes de la brigade, les gendarmes de Douma Avenier, moi-même et nos épouses. C'est un objet d'une grosseur que je ne peux vous chiffrer que par comparaison avec les étoiles. Selon mon appréciation, d'une grosseur de 10 à 20 fois celle des étoiles les plus grosses apparemment. Cet engin émettait une luminosité très intense, nettement supérieure à celle de tous les astres connus. Nous avons distingué d'une part un cigare, la forme d'un cigare, mais d'un gros cigare très renflé à sa partie la plus grande, quoi. Son diamètre était sensiblement du tiers de sa longueur. Il a disparu très progressivement. C'est assez curieux, c'est une chose qui excite notre curiosité à tous. Bien sûr, vous savez, dans ma brigade, il y a des gens qui y croient, puis d'autres qui n'y croient pas. Mais petit à petit, les gens qui n'y croient pas commencent à être un peu sceptiques, à se poser des questions quand même. C'est vraiment curieux.
Ce gendarme-là y croit. Et puis, le fait que cette révélation d'un objet dans le ciel, on va dire ça comme ça, émane d'une équipe de scientifiques, ce qui lui donne une certaine crédibilité. Et puis, n'oublions pas qu'il existe une photo du prétendu objet volant. Eh oui, le fameux cliché de Jean Bégaud, et évidemment repris dans la presse. Agrandie, davantage contrastée, annotée, elle suscite de nombreuses réactions. Et si c'était bien un ovni? Pour le professeur Jean-Claude Pecker, astrophysicien au Collège de France, en l'absence de tout autre élément d'analyse, il faut rester prudent.
Le mot soucoupe volante ou objet volant non identifié ne vous choque pas. Ce qui vous choque, c'est les extrapolations à partir
mais le mot,
de
le
phénomènes.
Le mot soucoupe volante est déjà une extrapolation. Je préfère le mot objet non identifié. S'il n'est pas identifié, ça peut aussi bien être un phénomène stratosphérique que n'importe quoi. Il n'est pas encore identifié, nous n'avons pas les éléments de l'identifier. Et je défie qui que ce soit d'avoir les éléments de l'identifier à partir de ce document. Ce que l'on peut dire, c'est que la probabilité pour que l'objet stratosphérique est grande, c'est tout ce qu'on peut dire. Et les extrapolations, rassurez-vous, il y en aura des tas à partir de ce document. Je tiens à vous mettre en garde contre ces extrapolations. Ce sont des extrapolations, c'est-à-dire des affabulations, à partir d'un document correct, exact, objectif, mais qui ne nous donne aucune information scientifique précise.
Cause toujours, parmi ceux qui vont tout faire pour percer le mystère, il y a le journaliste de France Inter, Jean-Claude Bourret. Passionné d'ufologie, il propose chaque soir à 20h30 une chronique dans l'émission Pas de panique, une chronique consacrée aux ovnis. Dans le studio, des auditeurs appellent pour témoigner, des journalistes viennent pour raconter, mais surtout des spécialistes donnent leur avis. Comme ce monsieur Poher, ingénieur et directeur des fusées au Centre National d'Études Spatiales. À Jean-Claude Bourret, il décrit à quoi ressembleraient les passagers de ces vaisseaux non identifiés qui circuleraient autour de la Terre.
Oh, généralement, ce sont des petits hommes entre 1m et 1m10 de haut qui ont un habillement collant, une espèce de combinaison. Très souvent, une grosse tête, des yeux globuleux et qui ont une attitude presque systématique de fuite. Ils, visiblement, ne cherchent pas à prendre contact ou à être vus lorsqu'un témoin les surprend.
Et vous y croyez ?
Ben, je ne sais pas s'il faut y croire. Je constate simplement que ces témoignages sont parfaitement cohérents avec les autres. Par conséquent, il faut être vigilant et étudier le problème.
Bon, on s'est bien diverti, retour à la réalité. Contrairement à ce qui était largement relayé dans la presse, les scientifiques de l'Institut d'astrophysique de Paris et leurs collègues du CNRS n'ont jamais traité cette affaire avec l'espoir de découvrir un quelconque ovni. Jusqu'ici, leur principale hypothèse, celle qu'ils jugent la plus probable, c'est la chute d'un étage de fusée ou d'un satellite qui aurait brûlé en rentrant dans l'atmosphère. C'est la presse elle-même qui a construit et installé la rumeur sur l'existence d'un mystérieux objet qui aurait fait face au Concorde le 30 juin 1973. En allant chercher des témoignages d'experts parfois peu crédibles, en employant un vocabulaire qui n'est pas adapté à décrire le phénomène observé sur la photo, les journalistes ont créé et entretenu une confusion qui fait vendre. En tout cas, beaucoup plus que l'explication des scientifiques, car ils en ont une, comme le dit l'astrophysicien Pierre Guérin.
Ce matin, M. Serge Kouchmi, mon collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est astrophysicien, m'a apporté, je pense, sur un plat chaud la solution définitive. Et cette solution définitive, je vous la lis. Parmi toutes les hypothèses émises au sujet de l'objet qui fut photographié vers 12h15 pendant l'éclipse totale de soleil du 30 juin 1973 à bord de Concorde, par M. Begaud, eh bien, l'hypothèse la plus probable et de très loin vient d'être envisagée et soumise à vérification. Il s'agit tout simplement d'un nuage stratosphérique ou mésosphérique créé par la désagrégation d'un météore qui appartenait à l'essaim Beta Taurides, essaim que l'on a identifié avec la matière de la comète Deneke.
Voilà, circulait. Mais en 1991, nouvelle donne. À la chute de l'Union soviétique, la CIA doit mettre un terme à la plupart de ses grands programmes d'espionnage jugés trop onéreux par le Congrès américain, d'autant que l'ennemi naturel a disparu. Conséquence, plusieurs journaux ont accès à des documents déclassifiés qui révèlent l'ampleur du système de surveillance mis en place par les États-Unis. C'est dans ce contexte qu'un nom de code apparaît dans la presse et dans les documentaires, le projet SR-71. Deux lettres et deux chiffres connus jusque-là de quelques spécialistes et initiés. Mais lorsque sur certains dossiers secrets du Pentagone, le nom SR-71 se retrouve accolé au nom Blackbird, ça interpelle. Car il s'agit d'un avion top secret de surveillance et de renseignement de l'armée de l'air américaine, développé au début des années 60. Totalement indétectable au radar, capable de voler aussi haut et aussi vite que Concorde, le SR-71 aurait pu jouer un rôle dans cette affaire d'apparition au-dessus du Concorde. Durant tout le programme de développement, de cet avion-là. Les Américains vont craindre un espionnage des Soviétiques qui auraient pu capter, à leur profit, la technologie du vol supersonique pour transformer leurs bombardiers ou utiliser des avions civils déguisés. Les multiples affaires d'arrestation d'attachés commerciaux de l'ambassade du RSS à Paris, avec entre leurs mains des valises pleines de renseignements volés, donneront raison à Washington. Cela dit, quel rapport avec l'observation de l'éclipse faite par le Concorde le 30 juin 1973 ? Eh bien, d'après certaines sources, ce jour-là, la CIA aurait fait surveiller le vol du Concorde afin de tester ses possibilités. Un exercice d'espionnage grandeur nature qui aurait permis de vérifier que le SR-71 Blackbird, l'américain donc, est indétectable à vitesse supersonique. Toujours d'après ses sources, la tache lumineuse que l'on peut voir sur la photo prise par Jean Bégaud à la fin du vol d'observation, ce serait donc en réalité un SR-71 amorçant un virage pour s'écarter de la trajectoire de Concorde. La lumière, elle, proviendrait de la combustion des turboréacteurs de l'appareil. Mais l'hypothèse d'une prise en chasse de Concorde par le Blackbird n'est séduisante que sur le papier. Parce que, l'explication officielle, grâce à l'étude du cliché, la seule retenue aujourd'hui encore par les scientifiques, est bien celle de la désintégration d'un météore. Voilà. C'est souvent comme ça avec les histoires d'OVNI, ou même d'espionnage. En termes de scénario, la chute est rarement à la hauteur des espoirs qu'elle suscite. Aujourd'hui, opération Eclipse 73, Concorde, la Lune et l'OVNI, notre invité, l'astrophysicien Pierre Léna. Bonjour cher professeur.
Bonjour.
Professeur émérite à l'Université Paris, cité membre de l'Académie des sciences. Vous êtes donc l'auteur d'un livre sur les coulisses de cette histoire, un ouvrage coécrit avec Serge Kouchmi, intitulé « Soleil éclipsé, supersonique Concorde 001, couronne solaire et exoplanète », livre paru en juin chez EDP Sciences. Bon. L'affaire de l'OVNI, on passe, hein. C'est bon, on a compris, vous êtes d'accord, désintégration d'un météore, on reste là-dessus ?
Tout à fait.
Bon, donc on parle d'autre chose, ce qui vous intéresse, vous ?
On pourra en reparler.
Oui. Ah bon, on en reparle ?
Si vous voulez.
Allez, un peu quand même, puis après, comme ça, on va évacuer. Quel souvenir vous gardez de ce côté OVNI, vous ?
On avait d'autres choses à faire, de plus sérieuses. Nous avions des kilomètres de bandes magnétiques, d'enregistrements papier à dépouiller pour que l'ensemble de mes collègues américains, britanniques et français, dont Serge Kouchmi, puissent tirer des conclusions, les publier rapidement dans des journaux scientifiques. Donc c'était ça notre travail. L'affaire de l'OVNI, bon, elle était amusante, et puis elle s'est bien terminée finalement, puisqu'il y a une explication extrêmement solide. Juste un mot qui n'a pas été évoqué, mais en fait, ces trajectoires de météores nocturnes sont bien connues. C'est les étoiles filantes, chaque fois que la Terre croise une trajectoire de comète éclatée en morceaux. Par contre, les trajectoires diurnes, quand ça arrive dans la journée, sont pas connues. Or, à l'époque, les Anglais avaient développé des radars qui surveillaient jour et nuit le soleil, et le ciel en général, et la trace d'un météore est ionisée, c'est un plasma. Donc elle réfléchit les ondes radars, et les Anglais connaissaient très bien, mais n'avaient pas publié ces météorites bêta-taurides.
D'accord. Donc c'était une première pour vous.
Mais on ne le savait pas.
Oui. Donc, d'accord. Alors, maintenant, quelle est l'évocation de ce récit qui remonte à 50 ans, hein, pile. Quel est le premier souvenir ou la première anecdote qui vous revient en mémoire ?
Être assis dans le Concorde le 30 juin à 10h du matin avec les appareils réglés, tout l'équipage devant nous et se dire... Mais dans quelle aventure me suis-je lancé pourvu que ça marche? Alors, pourvu que ça marche, il y avait le rendez-vous d'abord, il fallait être à l'heure, à la seconde et au kilomètre près, à peu près, hein. Et puis, nos appareils, il fallait que ça fonctionne, il fallait aussi qu'on se pose à Fort-Lamy à temps, avec des orages menaçant le front intertropical qui est toujours un peu inquiétant. Donc il y avait des aéroports de détournement qui avaient été prévus. Donc tout ça laissait beaucoup de points d'interrogation. Mais finalement, les dés étaient lancés en vol. Voilà. Nos auditeurs se souviennent peut-être de l'éclipse en France de 1999. Et certains ont pu la voir. Et c'est un spectacle prodigieux. Donc j'en avais vu avant et j'attendais aussi avec impatience, mais d'une autre manière, ce spectacle.
Ah oui, au plus près du spectacle.
Oui, un peu plus près que ce qui était au sol.
C'est le plus grand moment de votre carrière de scientifique, ce moment-là ?
Non, pas vraiment, parce que j'ai une carrière qui a duré plus de 40 ans et j'ai eu des moments extraordinaires sur le Grand Télescope européen au Chili, en avion pour d'autres observations. Donc c'est un moment très fort, mais c'est pas le seul, heureusement, je dirais.
Les observations que vous avez réalisées à bord, est-ce qu'elles ont changé votre compréhension, et la nôtre, du phénomène des éclipses ou de celle du fonctionnement de la couronne solaire, par exemple ?
Non, le phénomène des éclipses, il est très bien compris depuis Babylone, depuis 3000 ans. On a plus de précision dans les calculs aujourd'hui, mais fondamentalement, que pour un point de la Terre, la Lune passe devant le Soleil, c'est un phénomène de mécanique céleste qui est très bien compris. En revanche, les résultats sur la couronne, il y a 50 ans, on la connaissait très mal, cette couronne. On la connaît mieux aujourd'hui, il y a encore des questions à résoudre, on en reparlera, mais nous avons le sentiment d'avoir, sur quelques points, apporté des éléments qui ont ouvert de nouvelles questions.
Et quelles sont les questions à résoudre alors ? Puisque vous dites, il en reste.
Ah oui, alors, il en reste beaucoup. La couronne est un milieu extraordinaire, c'est une atmosphère du Soleil, mais qui s'étend à plusieurs rayons. Donc si on regarde le Soleil dans le ciel, c'est comme on avait une immense couronne extrêmement peu lumineuse, donc on ne la voit pas en dehors des éclipses, qui étendent la surface du Soleil. Or, cette couronne, entre la surface du Soleil, qui est à peu près à 6000 degrés, et une centaine de kilomètres au-dessus, la température passe à plusieurs millions de degrés. Quelle est la cause de cette remontée de température ? C'est une question que les scientifiques étudient depuis presque un siècle, sur lequel on a des idées. On n'a pas de réponse définitive. Et par ailleurs, c'est une partie de cette couronne est une éjection de gaz qui atteint la Terre et qui s'appelle le vent solaire. Et nous connaissons bien le vent solaire puisque c'est la cause des aurores boréales. Et ce vent solaire, il peut perturber aussi les communications radio et peut-être même d'autres phénomènes climatiques temporairement. Et là non plus, les mécanismes par lesquels ces particules sont accélérées depuis la surface du Soleil, injectées dans l'espace, probablement, très sûrement même en lien avec le champ magnétique du Soleil, qui est lui-même un phénomène compliqué, tout ça sont des questions qui justifient par exemple que la NASA, de son côté, et l'Europe de l'autre, aient lancé, il y a peu, des satellites d'étude du Soleil. L'un, celui de la NASA, s'approche à 9 fois le rayon du Soleil, donc imaginez la température qui règne, et celui de l'Europe est un peu plus loin, il est à 50 fois la distance du Soleil. Donc ça reste un objet d'actualité extrêmement intéressant pour les relations entre le Soleil et la Terre, et aussi pour la physique fondamentale.
Bien, voilà pour le côté scientifique, il y a le côté transport, si je puis dire, c'est-à-dire le Concorde. Quel rôle a joué ? Alors, André Turcat, pilote du Concorde, élément très important pour vous, j'imagine ?
Ah oui, parce que j'étais quand même un petit jeune à l'époque, j'avais 34 ans, il y avait peu... j'avais déjà volé sur des avions américains, de la NASA en particulier. J'avais lancé en France un programme d'observation infrarouge à bord d'une caravelle. Mais tout de même, lui demander un rendez-vous, lui, le chef des essais en vol de Concorde, à Toulouse, débarqué de France Inter, de l'avion de Air Inter, et le retrouver pour le déjeuner auquel il m'avait invité, et lui dessiner sur la nappe du restaurant la trajectoire possible et les 80 minutes potentielles d'observation, c'était un peu fou. Et ce qui m'a énormément surpris, je me souviens encore, rentrant à Paris le soir, c'est la curiosité instantanée et l'enthousiasme de cet homme. Il avait d'autres chats à penser que de monter à peine une année plus tard une éclipse. Eh bien, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se produise. Et c'était pour moi une très grande leçon d'un homme prestigieux, chargé de responsabilités, qui faisait attention à un petit jeune.
C'est très bien, ça arrive. Pierre Lénin, vous expliquez dans votre livre que les instruments que vous avez utilisés à bord pour observer la couronne solaire, fameuse couronne solaire, servent aujourd'hui à étudier un autre phénomène, celui des exoplanètes. C'est bien ça ?
C'est ça.
Bon, dites-moi, rappelez-moi déjà ce qu'est une exoplanète. On connaît bien le mot, mais...
Voilà. Notre système solaire, les planètes que nous connaissons bien, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, etc. La question qui s'est posée depuis plusieurs siècles, c'est existe-t-il autour d'autres étoiles des systèmes analogues ou différents d'une autre, où des objets tournent autour d'une étoile centrale. Il a fallu attendre 1995 pour que le premier système extrasolaire, et on dit aujourd'hui exoplanète plutôt, ait été découvert par nos amis suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont obtenu le prix Nobel pour cela. Et depuis maintenant près de 30 ans, c'est une abondance de découvertes. On connaît aujourd'hui plus de 5000 systèmes planétaires et on sait qu'il y en a des millions, voire des milliards. Donc c'est un champ nouveau de recherche extraordinaire qui suscite donc toutes sortes de missions d'observation sur Terre et dans l'espace. Or, il y a quelque chose de commun entre le problème que nous avions traité en 1973 pour observer la couronne et ce nouveau problème, à savoir le fait que pour observer la couronne, il faut cacher la surface du Soleil qui est trop brillante. On la cache avec la Lune. Ça, c'est l'éclipse, mais on peut aussi la cacher de façon moins favorable, mais néanmoins utilisable, avec un masque, un disque qui va faire cache sur le Soleil et aider dans un instrument qu'on appelle coronographe, qui a d'ailleurs été inventé par un Français, Bernard Liot, avant la Seconde Guerre mondiale. Et de cette manière, on peut voir ce qu'il y a autour de l'étoile Soleil, même si c'est très peu lumineux. Alors, même technique, mais cette fois le problème c'est de cacher la lumière d'une étoile avec un masque adéquat et de regarder si on n'aurait pas autour de cette étoile des tout petits points lumineux qui seraient des exotères, des terres semblables à la nôtre, dont on a toute indication aujourd'hui de penser qu'elles existent par toutes sortes de techniques. Mais si je retiens cette idée de coronographe, c'est parce qu'il y a une extraordinaire mission de la NASA qui est en préparation pendant 30 ans, dans laquelle le masque qui va cacher l'étoile est à près de 100 000 km du télescope qui regarde. Ils sont évidemment pas attachés. Ils naviguent de conserve. Donc c'est une mission tout à fait étonnante, qui fera de la coronographie. Voilà pourquoi, dans notre livre, nous avons voulu terminer par cette perspective...
Enthousiasmante, hein ?
Pardon ?
Enthousiasmante.
Enthousiasmante, ouais. Pour les jeunes générations.
Et puisque vous me parlez d'exotères, alors je vous pose la question incontournable, de curiosité humaine, est-ce qu'on peut imaginer une vie sur les exotères ?
Alors, c'est une grande question qui agite beaucoup notre communauté scientifique, beaucoup de chercheurs qui réfléchissent, voilà, mais nous ne voudrions pas vendre trop vite cette idée, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que, peut-être, à coup sûr, la vie est possible ailleurs, puisqu'elle l'a été sur la Terre. Maintenant, quelle est sa probabilité d'occurrence ? Nous n'en savons rien. Et les opinions, qui sont des opinions, et non pas des résultats scientifiques, peuvent varier entre extraordinairement rares, voire peut-être uniques, ce qui serait tout de même très surprenant, et partout dans l'univers. Et ce qui nous donnera au moins la position de la probabilité, plutôt 99% ou plutôt 0,1%, eh bien ce sont les travaux qui sont en cours maintenant et qui se... Voilà. Après, est-ce que ce sera mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ou dans 3 siècles qu'on aura la réponse à votre question, France Inter sera toujours là pour nous en parler, j'en suis sûr.
Oh mais c'est formidable, ce sera le mot de la fin, moi je dis plus rien après ça. Merci, au revoir.